Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Sylvie Matera.
Bonjour.
Bienvenue, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazars. Frédéric Farah, bonjour.
Bonjour.
Économiste, enseignant à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Fitch, Moody's. Alors je dis oui, techniquement, normalement, on est dégradé. Normalement, une agence dégrade si on a 10 points de détérioration de ratio de PIB. Non ?
Non. Il n'y a aucun automatisme. Il n'y a aucun automatisme dans les agences de notation.
J'avais vu que si on avait 10 points...
Non.
Ah. Bon, ça commence.
Les agences de notation donnent
une évaluation.
Oui. Les agences de notation donnent une évaluation de la capacité des emprunteurs à rembourser en temps et en heure.
Oui.
C'est une évaluation. Il n'y a absolument rien de mécanique dans ce qu'ils font, même si, évidemment, c'est déterminé par toute une série de ratios. Mais, in fine, il y a un comité qui décide dans chaque agence de notation, pour chaque notation, la variation ou non de cette note.
En fait, vous avez raison de me corriger. Je disais ça parce que quand on regarde le track record, le passé, généralement, quand vous avez sur la période une forte dégradation de ratio de dette sur PIB, vous avez beaucoup de chances d'être dégradé. 2019-2023, on se prend 13 points. Voilà. On dépasse les 10 points qui sont une sorte de boussole, mais d'accord, c'est bon. Comment vous regardez cette journée, Sylvie Matera ? Alors, Edwige Chevrillon recevait Bruno Le Maire avant-hier. Je suis serein. Bah, évidemment, il ne va pas dire que je suis hyper inquiet. je dors plus.
Je suis un samedi. Je pense que c'est déjà intégré. Je pense que le scoop, ça serait qu'on ne soit pas dégradé, en fait.
Ah, parce que vous pensez qu'on va être dégradé ?
Bah oui, je crois. Et je pense, mais je ne suis pas la seule à le penser, hein. Les marchés l'ont intégré, déjà. Ouais, c'est pour ça que si on est dégradé, je pense que... C'est pour ça aussi que je dis que le scoop, ce serait qu'on ne le soit pas. Parce que comme les marchés l'ont déjà intégré, je pense qu'en termes financiers, il n'y aura pas tellement d'impact immédiat. En théorie, quand on est dégradé, notre dette, la valeur de notre dette se déprécie. Mmh. Et donc, pour trouver des investisseurs attirés par cette dette dont la valeur a diminué, il faut payer plus cher.
On monte le rendement.
Il faut payer plus cher. Et comme on est très endetté, si on doit payer plus cher, c'est quand même un peu problématique. Mais cela étant, comme ça a déjà été intégré dans les marchés, je ne pense pas qu'il y aura des conséquences financières.
Mais ils n'ont rien intégré importantes. Du tout, Sylvie, les marchés. On n'a pas bougé avec le spread du Bund. Il n'y a pas eu de changement.
Ce qui est important aussi, c'est la liquidité de cette dette. Les investisseurs vont sur une dette parce que, d'abord, elle a un rendement attractif. Donc, quand elle a un rendement attractif, ça attire plus de gens. Donc là, c'est l'effet inverse. Et puis aussi, ils sont attirés parce que cette dette, elle est, vu sa taille, elle est très liquide.
On peut l'acheter et la vendre du matin au soir sans difficulté.
Donc, il y a un marché assez important. Donc, en termes impact financier direct, je ne pense pas que ça ait un énorme impact financier direct. Maintenant, il y a un impact de réputation, d'image. Il va y avoir aussi des impacts financiers indirects quand vous avez des contraintes qui sont indexées, enfin qui sont liées au rating français, notamment des garanties qui peuvent être demandées aux banques sur les marchés financiers internationaux. Donc, des impacts indirects. Donc, de toute façon, ce n'est pas une bonne chose, certes.
J'avais cru comprendre, c'est un peu du sous-texte qu'il n'allait peut-être pas forcément dégrader, mais réviser la recommandation qui peut passer de stable à négative.
Voilà. Quand on est en recommandation négative, c'est-à-dire qu'on a une chance d'être dégradé dans les 6 prochains mois.
Je rappelle qu'il y a chez chaque agence une grosse vingtaine de notes dans la grille. Quand j'ai regardé Moody's, vous avez 4 très bons niveaux, c'est le AAA, puis il y a 3 échelons AA, le AA1. Nous, on est AA2, donc on est 3e niveau, puis il y a AA3, avant de tomber dans les 3 échelons où il y a simplement un seul A. Là, c'est encore acceptable, mais c'est moins bon. Jean-Marc.
Les triple A, il y en a très, 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 très peu.
Hein. Oui, je sais qu'il y en a très
donc,
peu.
Donc, on est quand même, et même s'il y a une dégradation, on restera quand même dans des zones très positives. Il ne faut pas que les gens s'affolent non plus.
Non, absolument.
On reste dans des zones qui sont très positives.
Si on tombe à double A3, on est à un niveau jugé très bon. Voilà.
Exactement.
Bon, faut le rappeler,
on passera de très 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 bon à très 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 bon.
On passera de 17 sur 20, 18 sur 20 à 16 sur 20.
Voilà.
Bon,
mais
ça reste mention très bien.
C'est pas encore la fin du monde. Hein.
Même lecture, Jean-Marc, de la journée, là
ben, si on regardait les métriques, la France aurait dû être dégradée depuis déjà plusieurs semestres. Si vous regardez tous les pays qui ont la même notation que la France, ils ont des ratios de dette et de déficit public qui sont sensiblement plus favorables que ceux de la France. Et si vous regardez tous les pays qui ont les mêmes ratios que la France, ils ont des notations qui sont sensiblement inférieures à celles de la France. Et quand vous lisez les attendus, hein, parce que les agences de notation justifient leur évaluation, il y a deux points qui expliquent que cette spécificité française. Donc il y a bien un jugement, hein, c'est pour ça que je me permettais d'insister.
Non, mais vous avez eu totalement raison au
début.
Donc, vous connaissez la maison, la parole est libre. Hein.
La première raison, c'est la solidité des institutions françaises. Alors ça, on peut se poser une vraie question sur cette solidité. Hein. On voit bien que le fonctionnement de la mécanique institutionnelle française est de plus en plus laborieux. Il y a de plus en plus de grains de sable. Si vous regardez les relations entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, on voit bien que c'est... Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Mais pour l'instant, les agences de notation continuent dans leur ensemble à juger que ces institutions sont solides et plus que dans la plupart des autres pays. Et la deuxième raison, alors qui va vous paraître peut-être un petit peu étrange, mais qui est, je pense, bien réelle, c'est qu'on a un consentement très très fort à l'impôt et à la cotisation sociale. Alors ça paraît bizarre, hein, parce que dès qu'il y a une hausse d'impôt, oui, ça râle de partout et tout.
Mais, mauvaise humeur fiscale.
Mais si vous faites de la comparaison internationale, vous voyez bien qu'il y a une vraie différence entre la France et les autres pays sur ce point-là. Et ça, pour l'instant, ça dure. Moi, je suis prêt à argumenter que la France pourrait payer sensiblement, les Français seraient prêts à payer sensiblement plus d'impôts s'il y avait une efficacité plus grande de la dépense publique. Et donc, il y a ce consentement. Et ce consentement-là, il reste. Et ouais, c'est ce qui explique que... Mais ça ne veut pas dire que la notation de la dette publique française, hein, c'est pas la France qui va être dégradée, hein, c'est la notation de la dette publique de la France. Les mots ont leur importance. Risque effectivement d'être dégradée à tout moment quand on voit les tendances.
Mais là, pour vous, ce soir, Fitch et Moody's nous baissent d'un cran aussi ou juste jouent sur la perspective?
Je ne sais pas. Bon. Ça sera entre les deux.
Alors, je mets une question de plus pour vous permettre de réagir, Frédéric Farr. On a un peu, presque tout dit. Mais est-ce que, en fait, il y en a beaucoup qui me disent, faudrait une bonne dégradation pour provoquer un électrochoc. Là. Ça y est, enfin, on va se travailler sur la réforme de l'État, toujours promise, jamais réalisée. Enfin, le mot efficacité va apparaître.
Alors moi la théorie de l'électrochoc, ce genre de truc, j'y crois pas. Du genre, il faut un choc de simplification, fiscal.
C'est vrai que ça commence à bien faire.
Je commence à être fatigué. C'est toujours les mêmes mots avec qui sont inconsistants. Alors ça fait joli, ça fait beau. Oh, le choc, tout le monde croit que. Non, je pense que dans cette affaire, la seule conséquence, elle sera politique, c'est-à-dire par rapport au gouvernement et à sa situation, par rapport donc aux européennes qui arrivent, par rapport à 2027. Les conséquences économiques, elles ont été parfaitement dites, c'est-à-dire elles sont presque dérisoires. L'agence France Trésor place notre dette, très bien, elle fait très bien le job, et personne ne s'en inquiète, elle fait ça très très bien, donc je pense que personne se dit oui, là, l'agence France Trésor est dans une situation inquiétante, il n'arrivera plus à la placer. Deux, l'épargne qui est en Europe, qui est abondante, trouve souvent dans la dette publique un débouché, ça c'est une évidence, hein. Donc et le débouché pour cette épargne, bah, c'est d'acheter des titres de la dette. On nous a fait la même trouille, encore pire, avec les Italiens, en nous disant la dette italienne, la crise européenne, elle va arriver par là. En plus, chaque fois on nous avait fait peur, on nous a dit il y a eu un gouvernement qui était un peu 5 étoiles plus le Ligue, on a dit c'était épouvantable. Maintenant l'extrême droite arrive, on dit oulala, c'est épouvantable, il se passe toujours rien. Donc
c'est vrai, en plus.
Non, mais voilà, on nous raconte toujours.
Merci BCE, hein, effectivement.
Voilà. Et on sait très bien que, allez, même si on choisissait le scénario de l'apocalypse, allez, faisons-nous peur parce qu'on n'a pas envie de dormir, donc l'apocalypse c'est bien. C'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Nouvelle tempête sur les dettes souveraines en Europe. Qu'est-ce que vous croyez? Que la Banque Centrale Européenne regarde comme ça et non, dit, bon, on ne fait rien, on fait la vache qui regarde passer le train? Bah, bien sûr que non. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les dettes publiques restent des titres attractifs. Ouais. Voilà.
Alors, il y a un aspect technique que vous connaissez tous, qui a été rappelé tout à l'heure, c'est que tous les acteurs financiers, les banques, les assureurs, ont des espèces de grilles, j'achète ou j'achète pas en fonction des notations, et peuvent se retrouver avec des notes dégradées en dessous d'un certain niveau, à devoir en acheter moins ou ne plus en acheter. Bon. Mais oui, ça reste la dette. Oui, Jean-Marc.
Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que les agents de notation avaient commencé à dégrader la notation grecque?
J'ai envie de vous dire, ça doit être 2009-10
2004.
2004, elle dégrade la Grèce.
Oui, elle commence à dégrader, les agents de notation commencent à dégrader la dette publique grecque en 2004.
Oui, mais aussi...
Ça n'a rien changé pendant...
Voilà.
Mais c'est vrai. On a continué à acheter de la dette grecque pendant ces fameuses 6 années, là, comme si c'était de la dette allemande, alors que des signaux avaient été envoyés.
On peut aussi dire, alors puisqu'on est dans les souvenirs de cette histoire...
il aime l'histoire économique.
Moi, j'ai la passion de l'histoire économique, je vous le dis. Une passion totale, absolue et générale, et qui se renouvelle d'année en année avec toujours plus de force. Donc, je me souviens des perspectives de l'OCDE 2007 sur la Grèce. Quand on lit, c'est dithyrambique. On nous dit que c'est absolument génial.
2007,
on nous a expliqué que les réformes avaient été faites par le gouvernement de Simitis pour préparer les Jeux Olympiques, qu'il y avait fait tout ce qui était nécessaire, que les perspectives de croissance étaient fantastiques. C'est l'OCDE qui se dit ça. Bon, très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence. Relisez-les, 2007, ce que dit l'OCDE sur la Grèce, c'est formidable. Donc voilà, donc c'est génial. C'est que du bonheur.
C'est vrai que quelquefois, quand on relit des avis et qu'on voit comment l'histoire s'est écrite, il y a un côté un peu faillite des experts. C'est donc, pas la première fois.
Mais voilà, donc moi j'invite à y relire ça.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Sylvie, là, parce que je vous ai coupé la parole là.
Non, du coup, je m'en rappelle plus.
Bon, c'est moi qui suis responsable, Sylvie. C'est ma faute, Sylvie. Bon, je me retire de ce plateau sans plus tarder.
Juste sur l'histoire de la mauvaise note qui va forcer l'élève à se réveiller. Ouais. Moi, j'ai un peu de mal à y croire. Je me souviens, il y a 30 ans, souvenir.
Merci.
Il y avait l'Algérie était dans ses heures les plus sombres et il y avait un humoriste algérien qui s'appelle Fellag qui avait dit quand on touche le fond, on croit qu'on va remonter, mais nous, on creuse. La mauvaise note qui force l'élève à changer, ça marche pas toujours.
Je rappelle un souvenir aussi, c'est le souvenir de 2013 où j'avais croisé le fer de manière un peu sèche, avec Pierre Moscovici qui était à Bercy, et c'était sur Canal, chez Thierry Ardisson. Et puis c'était enregistré, moi j'aime pas tellement les trucs enregistrés parce que ça se monte, enfin bon. Et on parle dans la coulisse, et je lui dis, il y a qu'un truc qui compte, c'est le taux. Il me dit, mais évidemment. Le matin on regarde, à midi on regarde, le soir on regarde que ça. Ça compte quand même ce taux d'intérêt.
Oui, mais
c'est pas.
Non, mais évidemment.
S'il y a un truc qui préoccupe aujourd'hui Bercy, c'est beaucoup plus le taux d'intérêt que de savoir si la perspective de croissance c'est 1 ou 0,8, je crois.
Et il y a un petit lien entre les deux.
Oui,
j'allais le dire.
Frédéric, oui.
Sur ces affaires, il faut être très prudent. Moi, je prends encore le cas italien qui m'intéresse. L'Italie, en dehors de la question des taux d'intérêt, est en excédent primaire depuis fort longtemps.
Fort longtemps.
Donc, si on prend les choses au pied de la lettre, ça veut dire que c'est un bon élève, parce qu'il est en excédent primaire. Pourtant, ce bon élève n'est pas récompensé, puisqu'il doit payer des taux d'intérêt qui sont supérieurs. Donc, on pourrait dire que s'il y avait une logique dans cette histoire, eh bien, les Italiens, on devrait les applaudir des deux mains, au lieu de les critiquer de matin et soir, en disant, bravo, vous êtes en excédent primaire. Est-ce que c'est récompensé? Non.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique.
Il n'y a pas de formule magique. Je veux dire, l'Italie est en excédent primaire.
Maintenant, maman
crie. La dette en pourcentage du PIB est quand même assez élevée.
Oui,
je disais qu'en Italie, il y a quand même d'autres indicateurs qui ne sont pas aussi bons. La dette en pourcentage du PIB, elle est quand même très élevée. Oui, plus que nous. On est à.
Oui. Et puis le déficit est à 7,5.
Il doit être à 113 ou 115. Donc,
on est, nous, à 111.
Oui, j'allais dire 110, 111. Et eux, ils sont plus élevés.
Ils sont au-delà de 150.
Oui, et en plus, ce qu'il ne faut jamais oublier sur cette histoire de dette, même si c'est indirectement lié, qui fait que ça va être difficile d'agir dessus, c'est la grande crise européenne dont on parle peu, à mon avis, c'est la crise démographique. C'est-à-dire que l'Union européenne est pas simplement le vieux continent, mais c'est le continent des vieux. C'est-à-dire qu'il y a un vieillissement qui est très inquiétant. L'Italie ne fait plus d'enfants, le Portugal n'en fait plus. Nous, avant, jusqu'en 2013, ça allait, maintenant ça va plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dans des populations qui vont être de plus en plus vieillissantes, sachant que le coût de la santé augmente plus on se rapproche de la fin de vie, ça veut dire que la charge et les besoins en termes de financement vont être considérables. Et c'est marrant, dans toutes les crises, on parle de l'énergie, des chaînes de valeur qui s'allonge, patati patata, mais une incidence économique, c'est bien la crise démographique. Et on ne fait pas la même politique économique dans un pays qu'on va fabriquer plus de maisons de retraite que de crèches.
Alors ça, c'est totalement vrai, c'est énorme, et c'est très très important. Et ça a aussi une incidence sur, t'as dit les soins de santé, mais aussi la retraite.
Oui, bien sûr.
On a un mode de retraite par répartition, ça ne marche pas quand vous avez moins d'actifs et plus de retraites.
Voilà.
Ça ne marche pas.
Mais
c'est juste mathématique, c'est
et
pas
c'est
une...
Et c'est curieux que cette crise démographique, elle passe sous le radar.
Pas totalement, quand même, Frédéric.
Non, mais c'est vraiment... Et puis en plus, la croissance... Enfin, les modes de consommation sont complètement différents. Donc, le mode de croissance est...
Je suis d'accord, mais on parle quand même énormément... Chaque fois qu'on évoque les grands enjeux de dépenses publiques de demain, on vous met le numérique, on vous met le vert, on vous met la défense, on vous met les vieux.
Mais il faut rappeler que partout en Europe, c'est l'Italie...
Ah mais c'est délirant l'Italie.
Mais l'Italie, comment dire, quand on voit ces taux de fécondité, c'est parmi les plus bas depuis l'unification italienne.
Mais je suis d'accord, j'ai regardé, il y a une femme sur deux en âge d'avoir des enfants qui n'en a pas. Il y a David qui m'écrit, le consentement à l'impôt est un mythe français. Si vous ne payez pas vos impôts, on saisit vos comptes, voire on vous met en prison.
Oui, alors moi je...
C'était pas tellement
consentement à l'impôt, c'est l'efficacité à lever l'impôt. Et donc, effectivement, si vous ne payez pas, y a des mesures qui se mettent en place.
Non, mais on est bon pour lever l'impôt, oui.
Donc, c'est l'efficacité pour lever l'impôt. Donc, l'État est efficace dans pour lever l'impôt, ce qui donne confiance en sa capacité à générer des...
C'est ce qu'on appelle gentiment la vie attire des tenteurs.
Ouais. J'aime bien l'idée de Jean-Marc.
Non, mais je pense que ça va au-delà. C'est vrai qu'il y a un conseil, il y a une efficacité très grande de l'État et des organismes de recouvrement, cotisation sociale. Il y a une très très grande efficacité. Il y a des taux de recouvrement qui sont de 96, 98, 99%. C'est plus fort que partout ailleurs.
Ouais.
Mais je pense qu'aussi derrière, il y a une attitude vis-à-vis de cet impôt qui est différente de ce qu'elle est ailleurs. Je pense qu'il y a les deux éléments qui entrent en ligne de compte.
J'aimerais bien savoir si on améliorait vraiment, il faudrait que l'efficacité de l'action de l'État soit hyper palpable et visible et indiscutable. À ce moment-là, est-ce que tout d'un coup, on serait d'accord pour avoir des impôts plus élevés?
C'était la question qu'avait posée François Hollande quand il était président de la République. Il avait dit, il y a 10 ou 20 ans, on avait 5 points de dépenses publiques, 5 points de PIB de dépenses publiques en moins. Est-ce que ça marchait moins bien?
Voilà. Ouais. Non, mais c'est une bonne question.
Pour l'instant, la dépense publique, elle n'est pas super, super efficace. C'est plutôt vers ça qu'il faudrait axer l'amélioration, je pense.
J'ai l'aide qui m'écrit, l'intérêt de la séquence agence de notation d'aide publique est de mettre le sujet dans l'actualité, alors que d'habitude, tout le monde s'en fout. Seule possibilité que les curseurs bougent un peu, car les politiques ne réagissent que quand ça fait du bruit. C'est un peu l'idée de l'électrochoc. Bon, après. Avançons. 2 minutes 20, on marque une pause. Alors, je vais faire l'intro, et puis après l'intro, on marque la pause, et puis ensuite vous réagirez. Donc, on a eu deux économistes qui ont été chargés par Madame Borne, Antoine Bozio et Étienne Vasmer, de réfléchir à l'idée de la fameuse trappe à bas salaire. La désmicardisation, c'est le mot qu'a utilisé Gabriel Attal dans son discours de politique générale. Clairement, il y a un sujet français. On le sait, le SMIC est le seul salaire indexé. Il a énormément progressé à plusieurs reprises en raison de la vague d'inflation, ce qui fait que des gens ont été rattrapés par le SMIC, parce qu'à un SMIC, vous êtes indexé, mais à 1,05 SMIC, vous n'êtes plus indexé. Et donc, vous vous faites rattraper par le SMIC. Et là, on a un sujet, c'est que on a 17% de la population qui est à 1 SMIC, et si on rajoute ceux qui sont de 1 à 1,6, j'ai pas trouvé le chiffre, ça fait du monde. Et donc, le premier constat du pré-rapport, c'est de dire, bah oui, il y a un sujet, parce qu'à un SMIC, le patron, il a en termes de cotisation dite patronale, il a à peu près 7%. Et à 1,6, il est à 40%. Alors évidemment, tout ça écrase tout, ça bloque tout. C'est la fameuse trappe à bas salaire. Le rapport nous dit, ça fait 30 ans qu'on a lancé cette histoire. On arrête parce qu'on est allé au bout de l'histoire. Aujourd'hui, un patron en cotisation patronale à 1 SMIC, il ne paye plus que les accidents du travail et la maladie professionnelle.
Oui.
Alors, on peut en retirer encore, mais combien? On va aller en dessous de zéro? On va faire du crédit de je sais pas quoi, parce qu'on n'aura plus du tout de cotisation. Et puis, il faut bien la payer, la santé, il faut bien payer les retraites, il faut bien payer l'assurance chômage, il faut bien que quelqu'un paye. Donc, on est allé au bout de cette logique, et on est dans cette fameuse trappe. Et alors, après, on aimerait avoir les solutions. Eh bien, les solutions crèvent pas les yeux. Et en fait, à mon avis, s'ils ont fait un rapport d'étape, c'est pour dire... Le rapport final, c'est en juin, mais vous attendez pas à des miracles. Parce que c'est une tuyauterie socio-fiscale, disent-ils. Tout se fera avec prudence et progressivité. Et puis, si on est à budget constant et prélèvement constant, pour rien faire. Et puis, si on fait quelque chose, il faudra accepter qu'il y ait des gagnants et des perdants. Moralité, c'est assez mal barré, voilà. Alors, il y a 2-3 exemples étrangers vertueux, je vous en parlerai dans un instant. Mais c'est très facile de parler de désmicardisation dans un discours de politique générale. Maintenant, va ouvrir le capot pour regarder le moteur et commencer à connecter les durites, c'est là que les choses se compliquent, comme souvent. Voilà, j'ai fait mon petit blabla, on se retrouve dans un instant, réaction de mes invités.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.